Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, ils sont donc descendus dans la rue hier soir, lundi soir, toujours plus nombreux, 25 000 Allemands à Dresde ont manifesté leur opposition à, je cite, l'islamisation de l'Occident, tandis que dans tout le reste du pays, 100 000 contre-manifestants défendaient une Allemagne de la tolérance et de l'accueil. Le tout nouveau mouvement Pegida n'en finit pas de bousculer la rue, mais aussi les politiques allemands, nous le verrons, leur manifestation. La manifestation très controversée contre l'islam avait été décriée par le ministre allemand de la Justice comme une récupération honteuse des attentats de Paris et du mouvement « Je suis Charlie ». Inclassable, Pegida est une coalition hétérogène d'Allemands en colère et d'Allemands inquiets aussi après les attentats français. Écoutez ce reportage à Dresde de Déborah Berlioz.
Und in Hinterzimmern am Volk vorbei entschieden wurden.
Ce soir, dans la manifestation de Pegida à Dresde, on ne voit pas seulement les habituels drapeaux allemands. On aperçoit aussi quelques pancartes de soutien au journal Charlie Hebdo, car pour beaucoup ici, ces attaques ne font que confirmer leurs arguments contre l'islam. D'ailleurs, les organisateurs avaient appelé les manifestants à arborer un brassard noir en signe de deuil. Uwe, un ingénieur à la retraite, a suivi la consigne.
Les terroranschläge in Paris.
Les attentats à Paris m'ont fait peur. J'étais très choqué. Parmi les musulmans, nous avons beaucoup d'islamistes potentiels. Et à cause de l'immigration incontrôlée de musulmans en Allemagne, le danger de ces attaques augmente aussi ici.
Pegida s'est attiré de nombreuses critiques suite à cette récupération des attentats, surtout que normalement, les sympathisants du mouvement n'hésitent pas à vilipender la presse, qu'ils traitent de mensongère. D'ailleurs, ils sont peu nombreux à porter le brassard. Et ce ne sont pas les attaques dans l'Hexagone qui ont poussé Madeleine à manifester.
Je suis contre l'islamisation croissante de l'Allemagne. Ça vient sans doute moins des islamistes que de nos politiques. Par exemple, dans les crèches en Allemagne, on ne mange presque plus de porc. Et ça ne devrait pas être le cas, car les Allemands mangent du porc.
La jeune femme a fait la route depuis Berlin pour l'occasion. Uwe, le retraité, est venu spécialement de Hambourg. En tout, ils étaient plus de 25 000 à Dresde ce lundi, un chiffre record et qui est en constante augmentation depuis la naissance du mouvement. Tout a commencé en octobre avec la création d'un groupe Facebook par Lutz Bachmann. Cet habitant de Dresde, condamné dans le passé pour cambriolage, appelle alors à une marche contre l'islamisation de l'Allemagne. Comme lui, Uwe pense que l'immigration doit être davantage réglementée.
Par exemple, quand des Syriens ou des Irakiens viennent en Allemagne, nous devons évidemment faire en sorte qu'ils bénéficient de la protection de notre État. Mais quand la guerre civile sera terminée, ils devront retourner dans leur patrie. Et si des gens veulent rester ici, il faut qu'ils aient des qualifications professionnelles dont nous avons besoin.
Toutefois, Uwe ne se considère pas comme extrémiste. Les organisateurs et la plupart des manifestants rejettent violemment l'étiquette de populiste ou de néo-nazi. Et il est vrai que si l'on aperçoit quelques crânes rasés, la foule est très hétérogène. Tous les âges et toutes les classes semblent représentées. Pegida attire même des gens qui se disent de gauche, comme Tommy.
C'est la troisième fois que je viens à une manifestation de Pegida. Je ne manifeste pas contre l'islam, mais contre la limitation de nos droits citoyens. Les politiques font l'erreur de ne pas écouter le peuple. Et il n'y a aucune possibilité de démocratie directe en Allemagne.
Tommy manifeste donc contre le gouvernement et non contre les immigrés. Il aimerait plus de pouvoir pour le peuple, avec plus de consultations sur les sujets importants comme les interventions de l'armée. Depuis octobre, le mouvement Pegida s'est étendu à d'autres grandes villes allemandes, comme Cologne ou Berlin. Dans les derniers sondages publiés sur le sujet, 57% des Allemands disent considérer l'islam comme une menace. Mais quand on leur demande s'ils soutiennent les manifestations anti-islam, ils ne sont plus que 29%. Cependant, il n'y a qu'à Dresde que le mouvement rencontre un tel succès. Il faut dire que les idées conservatrices et extrémistes ont toujours eu un certain écho dans cette cité de l'ancienne Allemagne de l'Est. Ici, le parti néo-nazi NPD a même siégé au Parlement régional de 2004 à 2014. Un constat qui attriste Joachim, qui a défilé hier soir dans les rangs des anti-Pegida.
Les gens ici n'ont jamais été confrontés avec l'ouverture au monde, l'accueil de réfugiés ou l'intégration d'étrangers. La part de musulmans et d'étrangers dans son ensemble est très faible ici. Et les gens ont simplement peur de ce qu'ils ne connaissent pas.
Muni d'un gilet fluo et d'un balai, ce jeune informaticien reste après le départ des manifestants. Il veut symboliquement, dit-il, nettoyer la ville de la saleté de Pegida.
Et en Saxe, on ne compte que 2,2% d'étrangers, un des taux les plus faibles d'Allemagne.
Say it loud, say it clear, refugees are welcome here.
Et la mobilisation des anti-Pegida, ceux qui veulent défendre une Allemagne multiculturelle, terre d'asile pour les réfugiés, a aussi démontré sa force. 30 000 manifestants à Leipzig, 20 000 à Munich, 17 000 à Hanovre. À Berlin, Julien Méchaussier a rencontré des citoyens bien déterminés à ne pas laisser la rue aux manifestants Pegida.
Cassez-vous, cassez-vous. Séparés par la porte de Brandebourg, les anti-Pegida font entendre leur voix. Destinataires de ce message, quelques 400 sympathisants Pegida, drapeau allemand hissé, et qui se trouvent juste de l'autre côté du symbole de la réunification. Malgré le froid et une pluie battante, ce retraité berlinois reste déterminé.
Nous, on est ici pour rejeter la division entre musulmans, chrétiens et les autres religions, alors que eux, ils cherchent à diviser notre société. C'est pour ça que nous manifestons contre eux.
Si l'ambiance est plutôt bon enfant parmi les 4000 opposants, il y a aussi beaucoup d'incompréhension et de colère face à un mouvement selon eux ouvertement xénophobe. Ils sont aussi nombreux à arborer des affiches sur lesquelles on peut lire « Wir sind Charlie, wir sind nicht Pegida ». Nous sommes Charlie, nous ne sommes pas Pegida. Comme il y a 20 ans.
Je veux exprimer que l'Allemagne c'est ma patrie et Berlin, je suis née dans cette ville, alors... Je veux dire que les gens à l'autre côté de la porte de Brandebourg ne représentent pas du tout mon opinion. Je pense aussi la plupart des gens à Berlin. Alors je veux dire que tout le monde est bienvenu à Berlin, tout le monde est bienvenu en Allemagne. Et aussi avec les attentats en France la dernière semaine, il faut vraiment exprimer son opinion contre l'extrême droite aussi, qui essaie maintenant d'instrumentaliser les attentats. Voilà.
C'est le deuxième rassemblement Pegida dans la capitale allemande. Comme lundi dernier, les contre-manifestants vont atteindre leur objectif. Empêcher les patriotes européens autoproclamés de se rendre jusqu'à la mairie de Berlin. Dans un sondage publié la semaine dernière, 40% des Allemands disent se sentir étrangers dans leur propre pays. C'est aussi cela qui inquiète les opposants à Pegida, des citoyens qui n'ont rien d'extrémiste, mais qui expriment leur colère face à l'immigration et aux demandeurs d'asile. Un racisme ordinaire, jusqu'il y a peu encore tabou, en Allemagne, Moritz, 35 ans.
Avec cette manifestation contre Pegida, l'objectif c'est de tirer la sonnette d'alarme, de dire que ce racisme, qui était bien sûr là avant Pegida, mais qui n'était pas exprimé publiquement, s'exprime à présent dans nos rues aux yeux de tous. Il faut se battre contre ça.
Auch schon zu Hause war und ein Teil war, jetzt soweit ist das auch offen auf die Straße zu tragen und dagegen Zeichen zu setzen auf jeden Fall.
Jusqu'ici, les responsables politiques sont restés très prudents face à Pegida, un mouvement qui ne se réfère à aucun parti. Mais les attentats à Paris sont en train de changer la donne. Il faut tout faire pour contrer une division de la société. Hier, juste avant les différents rassemblements, la chancelière Angela Merkel est montée au créneau avec cette déclaration. L'islam fait partie intégrante de l'Allemagne.
Angela Merkel à la porte de Brandebourg aujourd'hui aux côtés des organisations musulmanes pour une commémoration silencieuse. L'accueil des réfugiés sur ce sujet, l'Europe du Sud est la première concernée. L'Italie, on le voit presque toutes les semaines, mais aussi l'île de Malte. Malgré les financements européens, les structures d'accueil laissent parfois à désirer. Damien Roulette de la RTBF est allé visiter plusieurs de ces centres ouverts et l'on trouve le pire comme le meilleur.
Ici, nous avons une clinique et une salle d'attente. Nous essayons d'avoir un médecin disponible quelques heures par jour.
Oliver Gatt est le directeur des opérations à l'Open Marsa Center, l'un des 6 centres ouverts de l'île de Malte. L'Open Marsa Center peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Les bâtiments sont en dur, les chambres spacieuses. Un bar à chicha égaye la cour. Un peu plus loin, nous entrons dans une salle de classe.
Voici l'un des centres d'éducation. On peut aussi l'utiliser comme cybercafé et puis bientôt nous aurons 3 classes comme celle-ci. Nous pourrons donner plusieurs cours en même temps, comme des cours d'anglais ou d'informatique.
Si un tel programme rencontre du succès, c'est surtout parce qu'Oliver Gatt s'échine à trouver les fonds nécessaires.
On travaille beaucoup avec des fonds gouvernementaux, mais c'est aussi un projet qui est financé par l'Union européenne. Et puis on essaie également de collecter des fonds afin d'élargir nos moyens.
Nous nous rendons maintenant dans un autre centre ouvert. Celui-ci est uniquement géré par le gouvernement maltais et le paysage est fort différent, comme si la volonté d'accueillir n'y était pas. Douche cassée, pas de chauffage, problème d'électricité, le centre est loin d'être bien entretenu. Camara est ivoirien, il a fui la guerre qui a ravagé son pays au début des années 2000 et cela fait maintenant 2 ans qu'il est à Malte. Camara vit avec 7 autres migrants dans un container d'une quinzaine de mètres carrés. Ces containers prennent allègrement le vent. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont déjà effondrés.
Ici, là, il fait pas froid, mais le vent sont glacés.
Les résidents des centres ouverts reçoivent 130 euros par mois. Comme Saïdou Bagayoko, ils se débrouillent vaille que vaille pour acheter de quoi se nourrir, se couvrir. Ce Malien a fui l'offensive islamiste de 2012 dans le nord de son pays.
Il y a un grand rond-point là-bas. Chaque jour, on partit là-bas pour chercher au travail. Travail le noir, souvent, le gens donnent 3 euros, 3,50 euros à l'air. On n'a pas de choix parce que le manger aussi, on gagne manger ici seulement une fois dans la journée. Donc on est trop souffrés ici, quoi, vraiment.
Le gouvernement maltais demande à l'Union européenne de prendre ses responsabilités.
En ce qui concerne l'intégration de réfugiés, surtout quand vous avez une proportion aussi élevée de migrants en tant qu'État membre, vous ne pouvez pas résoudre le problème en jetant de l'argent. Il faut d'autres solutions, par exemple le transfert intra-européen.
Joseph St. John est responsable des questions politiques et affaires internationales au ministère de l'Intérieur.
Malte possède déjà un programme de transfert vers les États-Unis depuis 2007. Il y a eu également des transferts vers l'Europe, notamment la France, l'Allemagne, mais ça n'a pas été constant.
Aujourd'hui, 430 000 personnes vivent à Malte. C'est l'État membre à la plus forte densité de population. Et avec 20 demandeurs d'asile pour 1 000 habitants, c'est aussi le pays qui, proportionnellement, accueille le plus grand nombre de migrants.
Europa!
Europa!
Quelle législation antiterroriste, quelle stratégie sur Internet et dans les prisons, quel dispositif sécuritaire et en matière de renseignement faut-il mettre en œuvre pour lutter contre les attaques terroristes en Europe? Le sujet est aujourd'hui une des préoccupations numéro un des gouvernements européens. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron, directeur du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
En France, le Premier ministre Manuel Valls a déjà annoncé de nouvelles mesures pour faire face aux menaces terroristes.
Oui, Manuel Valls promet une réponse exceptionnelle. Il veut notamment généraliser l'isolement des islamistes radicaux dans les prisons et il envisage un assouplissement de la législation encadrant les écoutes. Mais le gouvernement n'a pas attendu le massacre de la semaine dernière, Frédéric. Il a déjà fait voter une loi le 13 novembre dernier et cette loi devrait entrer prochainement en vigueur. Elle stipule que désormais les actes préparatoires à des crimes terroristes tombent sous le coup du délit d'association de malfaiteurs. De plus, un délit d'entreprise terroriste individuelle vient d'être créé. Cette loi permet par ailleurs une interdiction de sortie du territoire pour les candidats au djihad en Syrie et en Irak, dès lors qu'il est prouvé qu'ils sont en relation avec une telle association, autrement dit un groupe intégriste. Ils sont alors assignés à résidence pour 6 mois renouvelables. Pour les mineurs, cette loi permet également aux parents de s'opposer au départ de leurs enfants. Et l'interdiction s'accompagne du retrait du passeport et de la carte d'identité. Enfin, elle autorise le blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Alors cette législation s'ajoute à un arsenal juridique déjà important. Depuis une vingtaine d'années, pas moins de 14 lois antiterroristes ont vu le jour.
Même sévérité dans d'autres pays européens où on débat d'un nouvel arsenal législatif.
Oui, notamment au Royaume-Uni, où David Cameron a présenté en septembre dernier aux communes une loi pour lutter contre la menace djihadiste. Elle n'a pas encore été votée, mais cela ne devrait pas tarder après les attentats de Paris. Comme en France, les passeports des personnes suspectées de vouloir partir combattre aux côtés des islamistes leur seront retirés et leurs déplacements restreints. Quant à ceux qui tentent de revenir en Grande-Bretagne après avoir combattu dans les rangs de Daesh, ils seront bloqués à la frontière. Ce bannissement du territoire britannique pourra aller jusqu'à 2 ans. Ces nouvelles mesures s'ajouteront au Prevention of Terrorism Act, qui a succédé en 2005 à l'Anti-Terrorism Crime and Security Act de 2001. Cela permet déjà au ministre de l'Intérieur de décider administrativement de placer sous contrôle toutes les personnes suspectées de terrorisme, britanniques ou non. Il peut alors restreindre leur liberté de mouvement et bloquer leur accès à Internet. La préparation d'un acte terroriste, d'entraînement au terrorisme et d'encouragement au terrorisme sont, quant à eux, passibles de 7 ans de prison. Parallèlement, les avoirs des terroristes condamnés sont automatiquement saisis.
Et en Allemagne, la collecte des informations est désormais beaucoup plus centralisée.
L'Allemagne avait considérablement renforcé sa législation après le 11 septembre 2001. À l'époque, le gouvernement Schröder avait créé au niveau fédéral un centre de défense contre le terrorisme pour coordonner les actions des Länder. Une grande première dans ce pays où les toutes puissantes régions sont jalouses de leurs prérogatives. Dans la foulée, en 2002, une loi de lutte contre le terrorisme a permis d'avoir accès aux informations bancaires, téléphoniques, médicales des personnes soupçonnées de terrorisme. D'autres lois ont renforcé depuis son champ d'action. Dernier exemple en date, le recrutement et la propagande en faveur de Daesh et tous les signes et symboles y faisant référence ont été interdits. Enfin, une nouvelle loi est en préparation en Allemagne. Elle permettra, comme ailleurs, de confisquer les passeports et les cartes d'identité des candidats au djihad.
Enfin, dans tous les pays, les discours extrémistes, Daniel, et le recrutement pour le djihad sont désormais punis.
Il y a notamment les Pays-Bas. En août dernier, les Néerlandais ont mis en place un plan de lutte contre le djihadisme. Il pénalise les appels à la lutte armée et le recrutement pour le djihad. Quant aux Néerlandais qui ont combattu dans les rangs de Daesh ou d'un autre groupe armé, ils sont déchus de leur nationalité. Il est par ailleurs désormais interdit d'utiliser en public les instruments de propagande des organisations islamistes, comme les slogans ou les drapeaux. Enfin, tous les établissements enseignant le Coran ont été mis sous contrôle. Il faut également citer la Belgique qui, après l'attaque du musée juif de Bruxelles en mai dernier, prépare un plan de lutte anti-djihad. Il autorisera notamment l'infiltration sur Internet des réseaux djihadistes et prévoit un programme de réinsertion et de déradicalisation.
Et pour le futur, certains dirigeants européens veulent déjà renforcer les contrôles aux frontières.
Oui, le ministre de l'Intérieur espagnol souhaite effectivement un rétablissement des contrôles aux frontières au sein de l'espace Schengen pour éviter que les djihadistes passent d'un pays à l'autre. Mais on peut douter de l'efficacité d'une telle mesure. La menace terroriste est internationale et les frontières n'ont jamais empêché les attentats. Ceux qui ont frappé à Paris étaient, rappelons-le, français et ils étaient connus de la police. Il y a eu des failles dans le dispositif de renseignement et de surveillance des tueurs de Charlie, comme l'a reconnu Manuel Valls. Ces failles pourront être comblées notamment par un renforcement de la coopération entre les États et certainement pas uniquement par des mesures nationales.
Et au niveau européen, on reparle aussi de coopération pour échanger des données sensibles.
Elle passe notamment par la création d'un fichier européen sur les passagers aériens, le PNR, Personal Name Record. Son adoption était bloquée au Parlement européen, mais bon, il y a fort à parier qu'il devrait désormais rapidement donner son feu vert. Autre piste évoquée dimanche à Paris par les 11 ministres de l'Intérieur, une coordination des fournisseurs européens d'accès à Internet pour que les contenus incitant à la haine et à la terreur soient rapidement et systématiquement censurés.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur Facebook. À demain.